match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, Dan, merci toi-même.
Ça va très bien, merci. Est-ce que j'ambitionne de penser qu'Ottawa travaille fort pour Québec?
Non, mais écoute, c'est pas fou ce que tu dis. Puis, tu sais, je pense qu'il y a. Depuis quelques années, on a souvent parlé des Coyotes, on a souvent parlé des Hurricanes, de ces concessions-là qui en arrachent depuis un petit bout de temps. Mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que les Sénateurs d'Ottawa sont. C'est un club qui est un peu dans le trouble, évidemment, sur la patinoire, mais financièrement, ça va pas très bien. Avec le propriétaire, ça va pas très bien. La seule question que je me pose, Dan, oui. C'est leur projet d'amphithéâtre au centre-ville, à quel point ça a avancé. Parce que tu es déjà allé à Ottawa, les gens qui sont déjà allés, oui. On s'en va jusqu'à Kanata. C'est un peu comme quand tu vas au Patriot à Foxborough. Tu n'es pas à Boston, tu es à Foxborough. Ben, c'est un peu la même chose avec Kanata.
François, c'est comme faire un amphithéâtre à Stoneham.
Oui, ben c'est un peu ça. Puis je pense qu'à un certain point, si à un moment donné, tu te rappelles, on avait même parlé de construire dans le coin de Saint-Augustin, quelque chose comme ouais. Ça, le nouvel amphithéâtre. C'est un peu dans ce genre-là, que vraiment aux extrémités complètes de la ville. Fait que je sais pas, ce projet-là est rendu où exactement, mais c'est sûr que si un jour, dans un avenir rapproché, les sénateurs disent gars, il n'y a pas de nouveau propriétaire, la concession, puis écoute, les assistances vont être catastrophiques cette année. Là, c'était pas très beau l'an passé, ça va être horrible cette année. Je te prédis plusieurs soirées, il va y avoir moins de 10 000 personnes à Ottawa cette année avec les sénateurs qui vont en arracher. C'est sûr que si à un moment donné, tu évoques la possibilité d'un déménagement, puis d'un déménagement logique qui t'impose aucun changement au niveau des divisions puis des choses comme ça, ça pourrait certainement se faire. Mais tu sais, puis au-delà de Québec, là, je peux te confirmer que la concession des sénateurs d'Ottawa est en danger depuis au moins 2 ans. Puis les appuis de M. Melnyk se sont effrités dans les dernières années. Mais je te dis, ça va être une année financière qui va être catastrophique pour Ottawa cette année. Parce que oui, on va reconstruire, puis oui, ça, les gens peuvent le comprendre. Mais on prend tellement de décisions bizarres. On n'a plus de choix de première ronde parce qu'on a mal géré notre situation. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que les gens ont complètement décroché. Donc, c'est un 2 ou 3 ans qui risque d'être très important pour l'avenir des sénateurs d'Ottawa.
Et François, Zach Smith, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue, mais quand les sénateurs, au niveau financier, sont pas au-dessus de leur affaire, hein, on s'entend? Il reste 3 ans pour 10 millions, ils soumettent au balotage. Comprends que ça serait mal vu peut-être de racheter son contrat, mais Matt Duchesne, à qui il reste 1 an de contrat à 6 millions, aujourd'hui réagit et remet en cause la décision de l'organisation des sénateurs. Le bordel n'est pas pogné rien qu'un peu, là.
Non, puis tu te rappelles, même Craig Anderson avait dit à un moment donné qu'il ne voulait pas être échangé, même si c'était parti pour être une espèce de soap opera, là, les genres de téléromans que tu vois à la télévision en après-midi la semaine, là, ouais. C'était comme rendu un gros bordel. Puis tu sais, c'est parce que la situation fait en sorte que le propriétaire, quand il fait pas l'unanimité dans la population, c'est déjà un mauvais départ. Mais comme je te disais, tu sais, si comme organisation, tu dis aux gens, écoutez, on va reconstruire au complet, puis tu sais, dès le début de la saison, tu liquides Duchesne, tu liquides Mark Stone, peut-être Anderson, puis une couple d'autres, puis tu dis, nous, on se concentre à finir dernier, puis tu sais, espérer avoir le premier choix, puis avoir Jack Hughes l'an prochain, puis reconstruire ça sur une base solide. Mais le problème, c'est que tu n'as pas fait des bonnes transactions l'an passé. Je pense que cette année, tu en as fait quelques-unes de douteuses déjà. Puis en plus, tu n'as pas de choix de première ronde pour la prochaine saison parce que tu préférais repêcher Brady Tkachuk 4e l'année passée. Et tu sais, il y a eu tellement de décisions bizarres. Puis tu sais, on ne sera pas de cachette, c'est que Guy Boucher va en payer le prix à un certain moment donné. Je ne sais pas si ça va être cette année ou l'an prochain. Mais même si c'était Scotty Bowman qui était derrière le bat, ça ne changera absolument rien. Ça va être une année lamentable pour les sénateurs. Puis c'est, comme je disais, ça va devenir inquiétant à un certain moment donné au niveau financier pour cette organisation-là.
OK, François, évidemment, à Montréal, tout va bien. Les gens sont contents. Le Canadien gagne un match pré-saison. Ça fait un gros clash avec l'année dernière où ils avaient subi la défaite à leurs 6 premiers matchs de 8 rencontres hors concours. Et là, on a trouvé le sauveur. On a cherché longtemps le sauveur. En 2006, on pensait que ça allait être Guillaume Latendresse. Finalement, en 2018, c'est Jesperi Kotkaniemi, le sauveur. On l'a repêché comme joueur de centre parce qu'il y avait une pression l'hiver dernier à Montréal, puis on avait dit « Ouais, ça lui prend un joueur de centre. » Fait qu'on a laissé passer Zadina pour prendre Kotkaniemi. Maintenant, la question que j'ai pour toi, parce que jeudi dernier au Centre Vidéotron, il faut que je t'avoue que j'ai été franchement impressionné par Mathieu Pekka. On en a parlé ensemble la semaine dernière, mais c'est un gars qui sait jouer au hockey et c'est un gars à qui il faut que tu fasses laisse une place sur ton équipe. À la limite des limites, si tu as une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, il pourrait être ton quatrième joueur de centre, mais à Montréal, c'est assurément le troisième. Il faut qu'il passe devant Plekanec. Donc, les deux premiers, ça a l'air d'être Domi et Dano. Si on n'envoie pas Domi à l'aile, François, puis on s'obstine à vouloir le séparer de Jonathan Drouin, il n'y a pas de place pour Kotkaniemi.
Oh, puis je suis entièrement d'accord parce que ce que tu as dit en dernier, c'est exactement ce que j'allais dire. Si on a vraiment l'intention de faire jouer Max Domi au centre, il n'y a pas de place pour Kotkaniemi pour une première saison. Écoute, s'il reste à Montréal, je pense qu'il faut, tout le monde est au courant qu'il faut qu'il joue 14-15 minutes par match puis qu'il apprenne probablement dans la défaite puis dans la douleur, puis les statistiques seraient pas incroyables non plus parce que t'es pas nécessairement bien entouré. Mais moi, je suis un peu perplexe par rapport à tout ça. Puis tu as mentionné une couple de noms. Il y a toujours eu à chaque 2-3 ans, il y a toujours un jeune qui arrive puis qu'on veut, tu sais, après 3 ou 4 bons matchs hors concours, on veut le garder en haut. Puis les résultats pour l'organisation du Canadien, c'est un peu le problème, c'est que autant quand on a gardé des jeunes que quand on les a redescendus, on peut pas dire qu'on a la façon de développer les jeunes de façon parfaite. Ça a été très difficile dans les dernières années, mais moi, de ce que je vois, j'ai adoré honnêtement ce que le jeune a donné. Pour un jeune de 18 ans qu'on n'avait pas vu beaucoup, puis tu sais, je pense qu'on était tous un peu critiques quand on l'a repêché troisième, parce que il y a une couple de gars que j'aimais bien qui sont partis ailleurs, que je pensais qu'ils étaient des choix un petit peu plus sûrs, mais il faut admettre que le jeune a bien fait. Mais moi, je pense que la meilleure des choses pour lui, c'est, est-ce que c'est la Ligue américaine ou la Finlande? Ça, c'est une autre histoire. Je lisais que c'est son père qui est son entraîneur en Finlande qui retourne. Je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce qu'il est mieux de jouer à Laval sur une petite patinoire avec, je pense, un Joël Bouchard qui est quand même intéressant pour comme coach pour faire graduer ton jeune? Donc, il y a beaucoup de choses dans la balance, mais honnêtement, à ce stade-ci, moi, je pense pas personnellement que je le garderai à Montréal, puis je pense pas que dans le style de Claude Julien, avoir un jeune de 18 ans que tu vas falloir, tu sais, qu'on va t'obliger à utiliser à outrance, je suis pas sûr non plus que lui va être emballé. Puis l'autre chose, Dan, c'est quand tu vas arriver à la fin, là, quand tu donnes ton alignement de départ, là, t'as tellement de choix difficiles. Habituellement, t'as 3 ou 4 gars que tu dis, écoute, faut que je les passe au balotage ou je les perds. Ben, Kotkaniemi, t'as pas ce dilemme-là. T'sais, c'est un choix facile. Tu peux le laisser descendre à Laval ou en Finlande sans le passer par le balotage. Donc, ça aussi, des fois, ça va jouer dans la décision. Mais à ce stade-ci, je continue de croire qu'il commencera pas la saison à Montréal. Puis je pense personnellement que c'est peut-être la meilleure décision pour lui.
François, tu te demandes si c'est bon ou mauvais que ce soit son père, son entraîneur en Finlande. Ça peut être un ou l'autre. Ton questionnement est excellent. Là où je prioriserais Laval versus la Finlande, si c'est possible dans son contrat, évidemment, c'est le fait que Laval, c'est la Ligue américaine. Et la Ligue américaine, ça se rapproche beaucoup plus de la Ligue nationale de hockey que la Finlande. J'ai été étonné quand Kotkaniemi, à son premier match au concours ici au Centre Bell, après la victoire contre les Devils, a affirmé en entrevue après le match, il dit « Le combat qu'on a vu aujourd'hui qui impliquait Nicolas Deslauriers, c'est la première fois que je voyais un combat depuis que je joue au hockey.
» Mais ça prouve aussi la mentalité très différente entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en Europe. Puis je dis pas qu'on est mieux ici, mais je connais beaucoup de gars qui sont allés jouer en Europe qui disaient « Il n'y en a pas de combat en Europe, mais ça joue du bâton, par exemple. Les gars sont habitués, il y a plus de coups de bâton, les gars sont plus agressifs avec leur bâton, mais il n'y en a pas de combat. Mais moi, je pense que dans la situation où il commence à Laval, la grandeur de la patinoire est très importante. Ça, c'est une différence qui est tellement importante pour un jeune joueur. L'entourage que tu as, puis le fait que tu sais, t'es rendu à Laval, t'es plus à Hamilton ou à l'autre bout du monde. Tu sais, je veux dire, je sais pas, le Canadien joue un samedi soir, puis lui, il y a rien cette journée-là. Il peut aller faire un petit tour sur la galerie de presse à Montréal, aller voir un match du Canadien, tu sais, se tremper aussi dans l'ambiance de la Ligue nationale, aller voir les différences de calibre entre les deux ligues. Parce qu'on va s'entendre sur une chose, Dan, un match comme hier soir, là, sans rien enlever à tous les joueurs qui ont bien performé. Tu sais, le Canadien a affronté, je pense que c'est dans les journaux ce matin qu'on titrait le Canadien a battu les Marlies. C'était pas loin d'être ça. Tu sais, faut pas que tu t'emportes avec un match comme ça où il y avait à peine quelques joueurs de calibre de la Ligue nationale dans l'uniforme des Maple Leafs. Donc, je pense qu'il faut aussi garder une réserve sur comment le jeune va performer s'il joue au meilleur de la Ligue nationale de hockey. Donc, toutes les options sont encore là. Puis, tu sais, il y a toujours l'option, Dan, qu'on peut commencer l'année avec lui à Montréal puis prendre une décision par la suite. Ça peut toujours être une possibilité, mais habituellement, c'est pas dans le style du Canadien de faire ce genre de choses-là dans les dernières années.
Il y a des bons flashs, le kid. Faut juste pas qu'on l'identifie comme étant le sauveur de la franchise. François, j'ai une hypothèse à te soumettre parce que Marc Bergevin a un mandat plutôt complexe de relancer cette équipe-là. Il y a un auditeur qui me faisait rire l'autre jour hors des ondes. Il a appelé Will en régie. Il dit, Dan, mandat Dan, s'il a vu ça souvent, un DG qui débâtit une équipe puis qui a le mandat de la rebâtir. Il dit, normalement, c'est deux gars différents.
Ouais, ou quand ça arrive, habituellement, le gars ne voit pas la fin de son travail.
Exact.
Là, c'est parce que la reconstruction est souvent très longue.
Il est congédié avant.
Quand tu recommences à gagner, écoute, il y a combien de gars qui ont vécu ça dans leur carrière, ça doit être terriblement frustrant. Je pense toujours à Michel Therrien, a probablement été celui qui l'a vécu de façon le plus drastique, parce que c'est lui qui avait perdu le match numéro 7, la finale de la Coupe Stanley, puis l'année d'après, il a perdu sa job, puis c'est Dan Bysma, je pense, qui avait gagné la Coupe
en
avec 2009, les Pingouins.
Ouais, exact.
C'est des choses comme ça qui arrivent, mais c'est vrai que c'est assez rare. Puis il faut admettre une chose, Dan, puis ça, je pense que c'est pas juste au hockey, c'est vrai dans le sport professionnel en général, c'est que tu peux être un bon directeur général, mais ça se peut que tu ne sois pas un bon directeur général pour faire une reconstruction. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes notions d'un choix de première ronde, du genre d'espoir que tu as besoin pour ton organisation. C'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon. Puis moi, personnellement, quand tu fais une reconstruction, c'est tant qu'à la faire, aussi bien de la faire de A à Z. Tu sais, de dire que pas d'affaire de garder 7-8 vétérans qui te coûtent quand même beaucoup d'argent. Puis je comprends que dans le hockey d'aujourd'hui puis dans le sport d'aujourd'hui, tu seras pas capable de te débarrasser de certains contrats. Ça, on peut comprendre ça. Mais à un moment donné, je pense que ça vaut la peine non seulement de liquider au complet, mais de t'assurer d'avoir les meilleurs choix au repêchage possible pour 2 ou 3 années consécutives, parce que c'est là vraiment que tu reconstruis une organisation. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est très rare qu'un gars va avoir, ou même va dire qu'il va construire une équipe gagnante d'ici 5 ans, qu'on va lui donner un autre contrat où il y aura le mandat de débâtir cette équipe-là, puis essayer de la reconstruire dans un temps X. Là, je ne sais pas ce que la famille Molson s'attend du Canadien, mais je pense qu'en toute honnêteté, d'ici 3 ans, c'est difficile de penser que le Canadien va être capable non seulement de performer, mais de participer aux séries d'après-saison. Là.
François, tu es encore très jeune, mais tu es assez vieux pour te souvenir des offres hostiles qu'ont reçues des joueurs de la Ligue nationale comme Joe Sakic, comme Shea Weber, comme Dustin Penner, puis il n'y en a plus ben d'offres comme ça, c'est-à-dire une offre faite à un joueur autonome avec restriction qui coûte, si jamais ça se concrétise, plusieurs choix de première ronde, dépendamment du montant que tu as consenti au joueur. Avec la signature de Shea Theodore aujourd'hui avec Vegas, il reste un seul joueur potable qui est sans contrat, c'est William Nylander. Pourquoi Marc Bergevin offre pas 7 ans à 7,5 millions à Nylander?
Moi, je ferais pas ça, Dan. En passant, je pense qu'il y a Nick Ritchie aussi en Anaheim qui restait. C'était comme les deux joueurs de qualité
Ritchie
qui restaient.
Ritchie sans contrat, OK.
Ouais, puis mais tu sais, Nylander, je pense, est plus est meilleur que Ritchie. Mais sincèrement, je l'aime, William Nylander. Je suis pas convaincu quand le DG des Maple Leafs se dit qu'il s'arrangerait pour mettre tout le monde sous contrat dans les prochaines années. Moi, je suis pas convaincu de ça, là, parce qu'avec juste Matthews, Marner, Tavares, ça va te coûter une fortune. Puis il faut que tu te reconstruises un peu défensivement là où tu as des problèmes. Mais autant j'aime William Nylander, Dan, c'est pas le genre de joueur à qui je ferais une offre hostile. S'il m'avait dit,
pourquoi?
Peut-être on en a parlé l'an passé, Draisaitl, là, c'est le genre de joueur que je pense qui peut être un joueur concession. Est-ce que William Nylander est un excellent joueur de hockey ou un joueur concession? Je pense qu'on peut avoir une longue discussion.
Ben à Montréal,
là-dessus.
Assurément, avec l'équipe qu'ils ont actuellement.
Ben là, il serait un des meilleurs, ça, je te le concède.
Le meilleur.
Je le vois plus comme un gars de 70 points que comme un gars de 100 points. Puis 70 points dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est excellent, on va s'entendre là-dessus. Mais je suis pas sûr que je lui mettrais autant d'argent. Puis surtout le fait que il faut que tu c'est les choix repêchage qui pourraient faire très mal.
Oui, mais le gars en qui tu as confiance, il est pas bon en première ronde. Fait que même si tu le perds pendant 4 ans, c'est pas grave.
T'as un bon point, sauf que si le Canadien faisait ça, que les Leafs décident de pas matcher l'offre, puis que tu finis, tu sais, deuxième, troisième, avant-dernier, puis c'est toi qui gagne la loterie. T'as l'air un peu fou, là. T'as l'air vraiment un peu fou.
Mais avec Nylander, tu vas être meilleur, François.
Ouais, mais à quel point? T'sais, est-ce que le Canadien deviendrait un club qui pourrait participer aux séries avec un seul joueur de plus? J'ai des doutes, mais je comprends très bien ton point. Peut-être que j'aurais plus embarqué pour un joueur un petit peu plus d'impact, que je trouve peut-être comme plus un joueur de concession. Mais j'ai hâte de voir comment on va trouver une solution, parce qu'on va probablement finir avec comme on appelle les bridge contracts, là, un petit 2 ans, qu'on va trouver un terrain d'entente. Mais à un moment donné, quand tout le monde va passer à la caisse à Toronto, c'est impossible qu'on soit capable de signer tout le monde, parce que sinon, il va falloir que tu aies 7 ou 8 joueurs au salaire minimum si tu veux rentrer dans ton argent.
Parfait. Gros merci, François.
Salut, bonne soirée.
Avant de te laisser, attends, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Je sais que le temps file. Puis au retour de la pause, je parle avec Enrico Ciccone, une entrevue politique, ça m'est pas arrivé souvent. Mais, mais les Aces d'Oakland, François, un mot, 30 secondes, c'est-tu un Moneyball prise 2 qu'on vient de vivre?
Oui et non, dans le sens où on a quand même, écoute, on a fait un travail fantastique pour faire des bonnes transactions et surtout pour développer nos jeunes qu'on avait repêchés. Tu sais, puis faut être honnête, Dan, là, moi, le premier, je suis un maniaque de baseball. Jamais dans 100 ans, je voyais les Aces de 1 participer aux séries, de 2 gagner 90 matchs cette année. Moi, je me disais, il était encore à une ou deux années d'être très compétitif. Okay. Évidemment, ils échangent pas leurs meilleurs joueurs. Okay. C'est une très, très belle histoire. Ce qui est un peu plate, c'est que ça va être un match suicide contre les Yankees. Ça va être à Oakland, ça va être à New York, on verra. Mais moi, la question, puis je vais te la poser, Dan, est-ce que tu préfères voir les Red Sox jouer contre les Yankees ou jouer contre les A's d'Oakland?
Pour le baseball, contre les Yankees.
Oui, mais c'est ça. Je pense que les gens sont un peu comme ça, mais moi, personnellement, voir les A's, pas d'argent, affronter les riches Red Sox, je pense que ce serait un bon spectacle aussi. Mais oui. L'histoire est fascinante, puis pour tous les gens qui ont aimé les Expos, je pense que c'est un petit clin d'œil qu'on nous fait en disant, tu sais, moi, je prends pour les A's parce que j'espère qu'avec leur petit budget, ils vont pouvoir donner une leçon aux équipes un petit peu plus riches.
Parfait. Un gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
Got him swinging, and that's the ball game. And how about this, folks? The magical season for the Oakland A's will now include October baseball. The A's are in the postseason for the fourth time in the last 7 years.
And their first appearance since 2014 after...